Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 96, Daf Tzadik Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Mahou, qu'en est-il? C'est-à-dire que c'est vrai qu'ici, ils ont transgressé un interdit de manger les membres du sacrifice qui normalement sont offerts sur l'autel. Eux, ils ont mangé ces membres. Alors ça, c'est sûr qu'ils ont transgressé cet interdit. Maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'ils ont transgressé aussi un deuxième interdit de manger ses membres en état d'impureté? Chose qui existe à propos de tous les autres sacrifices, un interdit qui nous dit que les membres qui sont offerts sur l'autel, premièrement, on n'a pas le droit de les manger, et deuxièmement, on n'a pas le droit de les manger en état d'impureté. Et si quelqu'un les mange en état d'impureté, il transgresse deux interdits. Alors ici, qu'en est-il? Est-ce qu'il transgresse ces deux interdits ou seulement l'interdit de manger les membres du sacrifice qui sont offerts sur l'autel? Quels sont les deux côtés du doute? Alors la Gemara nous dit, allons nous dire que puisqu'il a été permis de manger la viande en état d'impureté, alors il est aussi, il n'y a pas d'interdit de manger les membres en état d'impureté. Odilma ou peut-être, ce qui a été permis, cela a été permis, et ce qui n'a pas été permis, cela n'a pas été permis. Or, à propos des membres, il n'y a pas eu de permission de les manger en état d'impureté. Amarava, alors Rava a dit, Mirdet ou Matimorin, Mechaitrebay. C'est interdit de manger les membres qui sont offerts sur l'autel en état d'impureté, d'où a-t-il été appris? Mitumat Bassar, de l'interdit de manger de la viande d'un sacrifice lorsqu'on est en état d'impureté, dirtif comme il est écrit, Asher Lachem, qui est à Dieu. Et le verset entier nous dit, Nefesh, Asher Tochal, Bassar, Mizevach Hashlamim, Asher Lachem, et l'âme qui mangera de la viande du sacrifice rémunératoire qui est à Dieu, lorsqu'il est en état d'impureté, alors il sera passible d'une peine de retranchement. Et du mot qui nous dit « Asher Lachem » qui est à Dieu, on n'avait pas besoin de dire ce mot-là, et de là nous apprenons, et nous incluons aussi, pas seulement la viande du sacrifice, mais même les membres du sacrifice qui normalement sont offerts sur l'autel. Et donc, de même qu'il est interdit de manger la viande d'un sacrifice en état d'impureté, il est interdit de manger les membres qui sont offerts sur l'autel en état d'impureté. Les rabots étaient émorim pour inclure même les membres du sacrifice qui sont offerts sur l'autel. Et donc, de ce verset-là, donc, puisque ces deux enseignements ont été appris du même verset, alors je dis, kol echad eitel etumat basar, à chaque fois qu'il est interdit de manger la viande en état d'impureté, itel etumat emorim, alors il est interdit aussi de manger les membres en état d'impureté. Kol echad eitel etumat basar, par contre, dans un cas où il n'y a pas d'interdit de manger la viande du sacrifice en état d'impureté, il n'y a pas d'interdit de manger les membres du sacrifice qui sont normalement offerts sur l'autel en état d'impureté. Il y a l'interdit de les manger, tout simplement de les manger, car normalement ils doivent être offerts sur l'autel. Mais l'interdit de les manger en état d'impureté, cet interdit-là ne s'applique pas. Bah, Rabzira s'est posé une question. Imore Pesach Mitzrayim Echak Tirenu. Les membres du sacrifice qui sont offerts sur l'autel. Lorsque les Bnei Israël ont offert le sacrifice de Pessah en Égypte, ces membres-là, où ont-ils été offerts, étant donné qu'il n'y avait pas d'autel? Amar le Abaye, alors Abaye lui a dit, « Uman li malan de loch viski avoud » qui nous dit qu'ils ne les ont pas fait en brochette. Peut-être qu'ils les ont fait en brochette. Vod de plus, « Hatan et Rabbi Yosef a enseigné, « Shalosh misbachot ayusham » que lorsque les Bnei Israël ont offert le sacrifice en Égypte, il y avait trois autels, « Ala mashkof ve al shtea mezuzot » sur le fronton de la porte et sur les deux poteaux de chaque côté de la porte. Ça, c'était l'autel sur lequel on jetait le sang du sacrifice. Et donc, il y avait un autel pour jeter le sang du sacrifice, mais il n'y avait pas d'autel pour y brûler les membres. De plus, il n'y avait rien d'autre là-bas. Et donc, c'est sûr que les membres du sacrifice n'ont pas été offerts. Et la Mishnah nous dit, « Ma ben Pesach Mitzrayim, les Pesach Dorot. » Quelle différence y a-t-il entre le sacrifice de Pessah qui a été offert en Égypte et le sacrifice de Pessah qu'ont fait les générations qui suivent? C'est-à-dire que toutes les générations après être sorties d'Égypte. Alors la Mishnah nous dit, Pessah Mitzrayim, Mikrob Mibasor. Le sacrifice de Pessah que l'on a fait en Égypte, les Bnei Israël l'ont prélevé déjà depuis le 10 Nissan. Par contre, le sacrifice qui a été fait les générations d'après, on n'avait pas besoin de le prélever déjà depuis le 10 Nissan. Et on a besoin d'asperger le sang avec une poignée d'isop, ce qui n'est pas le cas dans le sacrifice de Pessah des générations suivantes. Et on l'aspergeait sur le fronton de la porte et sur les deux poteaux de la porte. ce qui n'est pas le cas des sacrifices de Pessah dans les générations suivantes. Vénéral bechipazon belaïla echan. Et le sacrifice de Pessah de Mitzrayim a été mangé rapidement une seule nuit. Ou Pessah d'Orod, Noé Kolchiva. Et les règles de sacrifice de Pessah des générations suivantes s'appliquent durant 7 jours. Et nous allons voir dans la Gemara quelle est l'explication de cette dernière phrase de la Mishnah. Et la Gemara demande maintenant, Minalan, d'où savons-nous que le sacrifice des générations suivantes, le sacrifice de Pessah, on n'a pas besoin de le prélever depuis le Dinissan? La Gemara nous dit, dirtif, car il est écrit, Daberu el kol adat Israël est mort, parlez à toute l'assemblée du peuple d'Israël en disant, Be'asor la chodesh azé veikru. Et le 10 de ce mois, et ils prendront. Et donc de là j'apprends Zé de ce mois-là, c'est-à-dire lorsque les béné Israël sont sortis d'Égypte, alors mikrom mi be'asor, on devra prélever le sacrifice depuis le 10 du mois, fait un pessar de rod, mikrom mi be'asor. Par contre, le sacrifice de pessar qu'on fait les générations qui suivent, on n'a pas besoin de le prélever depuis le 10 du mois. On a demandé la mat, alors à partir de maintenant, ce qui est écrit dans le verset est, Ve'aya lachem le mishmeret ad 14 yom lachodesh hazeh. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Et donc nous voyons encore à nouveau lachodesh hazeh de ce mois. Alors, et le tenir en réserve, ça signifie que durant les 4 jours qui précédaient le 14 Nissan, entre le 10 et le 14, tous les jours, on devait vérifier qu'il n'a pas de défaut. Alors, Hanami, allons-nous dire aussi, Zetaun Bikur Arbayamim Kodem Shrita, celui-ci, le sacrifice de Pessah de Mitzrayim, on a besoin de le vérifier 4 jours avant de l'abattre, Venacher Taun Bikur, mais d'autres sacrifices, on n'a pas besoin de les vérifier 4 jours avant de l'abattre. Vatania, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, Ben Bagbag Omer, Ben Bagbag dit, Minayin l'etamid, Shetaun Bikur Arbayamim Kodem Shrita. D'où savons-nous que le sacrifice holocauste journalier a besoin d'être vérifié 4 jours avant d'être abattu? Chez Nehema, comme il est dit, Tishmeru l'akriv libemoado. Et vous ferez attention de l'offrir en son temps. Et pour faire attention ici, le verset utilise le terme Tishmeru, qui est en fait la traduction d'habitude littérale du mot Tishmeru, c'est vous garderez. Donc, vous faites attention et vous ferez attention. Mais nous utilisons le terme tishmeru. Ou la lana omer, et plus loin il est dit, Ve'aya lichem le mishmeret ad 14. Et vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14. Et nous avons expliqué que le mot mishmeret, ça veut dire le garder, le tenir en réserve. Et en fait, l'intention est que tous les jours, il faut le vérifier qu'il n'a pas de défaut. Et donc, puisque nous utilisons le même terme, la même racine, qui est shmira, garder, nous apprenons que de même que le sacrifice de Pessah qui a été offert en Égypte avait besoin d'être vérifié durant 4 jours avant de l'abattre, il en est ainsi à propos de l'holocauste journalier que celui-ci doit être vérifié 4 jours avant de l'abattre. Or, si l'holocauste journalier est vérifié 4 jours avant de l'abattre, à plus forte raison que le sacrifice de Pessah qui est un sacrifice qui ressemble plus que l'holocauste journalier au sacrifice de Pessah de Mitzrayim d'Égypte, lui aussi devrait être vérifié 4 jours avant de l'abattre. Et donc, s'il en est ainsi, on ne pourra pas dire que Vaya lachem le mishmeret ad 14 yom lachodesh hazeh, et vous le garderez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Ça veut dire que seulement de ce mois et pas le sacrifice de Pessah qui des générations suivantes. Or, la Gemara répond, Shane Adam, là-bas, c'est différent, dirtif Tishmeru, car à propos de l'holocauste journalier, nous avons utilisé le terme Tishmeru, vous garderez, vous ferez attention. Or, ce terme n'a pas été utilisé à propos du sacrifice de Pessah, et donc c'est pour cela que nous apprenons que seulement l'holocauste journalier a besoin d'être vérifié 4 jours avant de l'abattre. Par contre, le sacrifice de Pessah des générations suivantes n'a pas besoin d'être vérifié 4 jours avant de l'abattre. Et maintenant, la Gemara continue à expliquer et nous dit, ou Pessah Dorot, à propos du sacrifice de Pessah des générations suivantes, Nami active, il est aussi écrit, Va'avadata et avoda azot bachodesh azeh. Et tu célébreras cette cérémonie ce mois-ci. Et de là j'apprends, Shiu kol avodot chodesh ze kaze, que toutes les cérémonies que l'on fêtera ce mois-là, c'est-à-dire que chaque année où on fêtera la fête de Pessah durant le mois de Nissan, cela doit être comme celui-là, c'est-à-dire comme le premier sacrifice de Pessah qui a été offert. Et donc, en fait, de ce verset, nous apprenons que le sacrifice de Pessah doit ressembler, des générations suivantes, doit ressembler au sacrifice de Pessah que l'on a fait en Égypte, sauf si le verset a dit explicitement que ça, c'est une loi qui ne s'applique qu'à propos du sacrifice de Pessah d'Égypte. Et étant donné qu'il est dit à propos du sacrifice de Pessah d'Égypte, « Wal kol ha'Israël emor ba'asor la chodesh azeh » parler à toute l'assemblée d'Israël en disant le 10 de ce mois-ci, et de là nous avons appris que seulement ce mois-ci, on devra prélever le sacrifice de Pessah 4 jours avant, mais pas dans le sacrifice de Pessah des générations suivantes. Donc de ce verset-là, nous apprenons que le sacrifice de Pessah des générations suivantes, on n'a pas besoin de le prélever 4 jours à l'avance. Alors la Gemara demande maintenant, alors si c'est ainsi, le deuxième hazé de ce mois-ci, qu'est-ce que nous avons besoin d'exclure? Car il est dit, et vous le garderez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois-ci. Qu'est-ce que nous apprenons de la Chodesh Hazé? Qu'est-ce que nous apprenons de ce verset? Puisque nous avons déjà appris du premier verset que seulement durant le Pessah d'Égypte, alors on avait besoin de le prélever 4 jours à l'avance et pas le Pessah des générations suivantes. Et donc puisqu'on n'a pas besoin de le prélever 4 jours à l'avance, on n'a pas besoin de le tenir en réserve. Donc pourquoi avons-nous besoin du second verset pour nous dire que seulement le Pessah d'Égypte est tenu en réserve et pas le Pessah des générations suivantes? La Gemara nous dit là, Oazé, les Maoté Pesarcheni. Ce Azé-là, ce mois-ci, ça vient nous exclure Pesarcheni, le second sacrifice de Pessah pour celui qui n'a pas pu offrir le premier. Alors j'aurais pu penser que ce second sacrifice de Pessah de Kevaté, étant donné qu'il ressemble au Pessah, au sacrifice de Pessah d'Égypte, c'est-à-dire étant donné qu'il ne dure qu'une seule journée. Alors j'aurais pu penser que puisqu'il ressemble au sacrifice de Pessah d'Égypte, alors on devra aussi le prélever 4 jours à l'avance pour le vérifier, c'est ce que ce verset vient nous dire, non, seulement de ce mois-ci, du Pessah qui était en Égypte, alors on a besoin de le prélever 4 jours à l'avance et de le tenir en réserve, mais pas Pessah Sheni, on n'a pas besoin de le tenir en réserve 4 jours à l'avance. Maintenant la Gemara demande, et la Mata directive, alors maintenant ce qui est écrit dans le verset est « Vachlo et abassar balayla azé » et ils en mangeront la viande cette nuit-là. Et donc de là j'apprends cette nuit-là, seulement cette nuit-là, alors à Hanami allons-nous dire aussi que celui-ci est mangé la nuit, mais un autre, c'est-à-dire le Pessah des générations suivantes, n'est pas mangé la nuit. Alors la Gemara dit non, ça on peut pas apprendre à Marka, car le verset a dit, et tu célébreras cette cérémonie, nous avons appris que le sacrifice de Pessah des générations suivantes doit ressembler au sacrifice de Pessah qu'on a fait en Égypte. Alors la Gemara demande, la hazé, la mani. Alors c'est ainsi, et ils mangeront le sacrifice de Pessah cette nuit-là. Pourquoi avons-nous besoin de dire spécialement cette nuit-là et pas une autre nuit? La Gemara répond, l'echder Rabbi Lazar ben Azaria et Rabbi Akiva. C'est pour apprendre l'enseignement de Rabbi Lazar ben Azaria et de Rabbi Akiva, qui ont discuté tous les deux dans Masechet Brachot, dans le traité de Brachot, et ils apprennent tous les deux de ce mot-là, est-ce que l'on a le droit de manger le sacrifice de Pessah jusqu'à la moitié de la nuit ou jusqu'au matin? Et la Méata, alors maintenant, la Gemara demande, alors maintenant, en directive qu'il est écrit, Vechol Arel lo yochalbo. Et toute personne non circoncis n'en mangera pas. Alors allons-nous dire aussi, Achanami, allons-nous dire aussi, des boy no ochel, que dans celui-ci, il n'en mangera pas, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah d'Égypte, aval ochel be Pessah de Rod, mais un non circoncis aura le droit de manger du sacrifice de Pessah des générations suivantes. Amarka, alors la Gemara répond, non, il n'aura pas le droit, car il est écrit dans le verset, Ve'ava de ta. Et tu célébreras, et c'est le verset que nous avons vu plus haut, tu célébreras cette cérémonie que le sacrifice de Pessah des générations suivantes doit ressembler au sacrifice de Pessah d'Égypte. Et de même qu'en Égypte, un non-circoncis n'avait pas le droit d'en manger, il en est ainsi dans les générations suivantes, un non-circoncis n'a pas le droit d'en manger. Alors la Gemara demande, est là, beau la Mali. Alors pourquoi avons-nous besoin de dire beau? Il n'en mangera pas. Il n'en mangera pas, il est suffisant de dire, velo achel lo yochal, et vechol arel lo yochal, toute personne non-circoncis ne mangera pas. Pourquoi avons-nous besoin de dire n'en mangera pas? De là, j'apprends, boeno ochel, avalo ochel bematao maro. De là, j'apprends que de celui-ci, il n'en mangera pas. C'est du sacrifice de Pessah, il ne mangera pas, mais il mangera de la matza et des herbes amères. La Gemara demande maintenant, et la meata, alors maintenant, qu'il est écrit dans le verset, kol ben nechar lo yochalbo. Tout étranger n'en mangera pas. Alors allons-nous dire, achanami, de boeno ochel, avalo ochel, ou Pessah vedorot, allons-nous dire que dans celui-ci, il n'en mangera pas. C'est-à-dire le sacrifice de Pessah d'Égypte. Mais il aura le droit de manger du sacrifice de Pessah des générations suivantes. La Gemara répond non. À Marka, le verset a dit, Be'avadeta, et tu célébreras cette cérémonie. C'est-à-dire que le sacrifice de Pessah des générations suivantes doit ressembler au sacrifice de Pessah d'Égypte. Et de même qu'en Égypte, un étranger n'avait pas le droit d'en manger, il en est ainsi dans le sacrifice de Pessah des générations suivantes. On m'a demandé la Bolamali. Alors pourquoi avons-nous besoin de dire dans le verset « il n'en mangera pas » Il est suffisant de dire « il n'en mangera pas ». Pourquoi avons-nous besoin de dire « il n'en mangera pas » Alors la Gemara répond « bo amaradat poselet, ven amaradat poselet bitouma ». Bo, c'est-à-dire dans le sacrifice de Pessah. Alors le fait d'être étranger, ou même si c'est un Ben Israël, mais qui s'est rendu étranger, c'est-à-dire par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a arrêté de garder la religion. Dans un cas pareil, poselet, le fait d'être étranger et de ne pas faire attention à la religion, ça le rend inapte à manger le sacrifice de Pessah. Par contre, le fait de ne pas garder la religion, ça ne le rend pas inapte à consommer de la terouma. Venamaradat, poselet betrouma, ça ne le rend pas inapte à consommer de la terouma. Et la Gemara nous dit, veitzerch le mirta varel, veitzerch le mirta ben nechar. Et nous avons besoin d'écrire dans le verset, est le cas d'une personne non circoncis, est le cas d'un étranger. Et nous n'aurions pas pu apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Car si la Torah avait écrit seulement le cas d'une personne qui n'est pas circoncis, alors j'aurais pu penser Mishum de Maïs, car il est répugnant, car Kadosh Baruch Hu le considère avec répugnation. Aval ben nechar, mais quelqu'un qui est étranger, c'est-à-dire un Ben Israël qui s'est rendu étranger à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, par exemple, qu'il a arrêté de garder la religion. Alors, l'Omaïs, lui, il n'est pas répugnant devant Kadosh Baruch Hu, car il a fait déjà la Brit Mila. Alors, Imalo, j'aurais pu penser que non, il n'y a pas d'interdit, que c'est pour cela que Tzricha, nous avons besoin d'écrire aussi qu'un étranger n'a pas le droit d'en manger. Viachminan ben Nechar, et si nous avons écrit dans le verset seulement le cas d'un étranger, alors j'aurais pu penser Mishum Delibola Shamaim, car lui, son cœur ne se concentre pas vers le ciel, c'est-à-dire lui, il n'accomplit pas les mitzvot pour faire la volonté de Hachem. Et donc puisque c'est ainsi qu'il ne veut pas faire la volonté de Hachem, on lui dit de ne pas manger du sacrifice de Pessah, Aval Arel, mais un non-circoncis. C'est très possible que il a l'intention d'accomplir la volonté de Hachem, et toute la raison pour laquelle il n'est pas circoncis, c'est par exemple un cas où ses deux frères qui l'ont précédé sont décédés lorsqu'on les a circoncis. Il y a une loi qui nous dit que lorsqu'il y a deux frères, le précédent, sont décédés à cause de la circoncision, le troisième frère ne sera pas circoncis. Et donc en fait, lui, c'est possible qu'il est très religieux, mais il n'est pas circoncis, parce que ses deux frères précédents sont décédés à cause de la circoncision. Mais tout ce qu'il fait, il le fait avec la volonté d'accomplir la volonté d'Hachem. Et donc, puisqu'il est ainsi, un harel d'Elibo l'Hachamayim, un non-circoncis dont son cœur, il a la volonté d'accomplir la volonté de Dieu, imalo, alors j'aurais pu penser qu'il n'y a pas d'interdit de lui faire manger du sacrifice de Pessah, tricha, c'est pour cela que nous avons besoin d'écrire que aussi un non-circoncis n'a pas le droit d'en manger. On m'a demandé la meata, alors maintenant ce qui est écrit dans le verset, toshav esachir lo yochal bo. L'habitant et le mercenaire étranger n'en mangeront pas. Alors allons-nous dire aussi, achanami de bo ou de no ochel, aval ochel ou be Pessah dorot, allons-nous dire aussi que dans celui-ci, le sacrifice de Pessah d'Égypte, ils ne mangeront pas, mais ils auront le droit de manger le sacrifice de Pessah des générations suivantes. On m'a dit non. Amakra, car le verset a déjà dit, va abata et tu célébreras cette cérémonie, c'est-à-dire que le sacrifice de Pessah des générations suivantes doit ressembler au sacrifice de Pessah d'Égypte, et de même qu'en Égypte, il n'avait pas le droit d'en manger, il en est ainsi dans les générations suivantes. On m'a demandé la bo, la mali. Alors pourquoi avons-nous besoin de dire bo? Dans celui-ci, ils n'auront pas le droit d'en manger. De là, nous apprenons que bo, à propos du sacrifice de Pessah, quelqu'un qui s'est rendu étranger à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il n'aura pas le droit d'en manger, mais quelqu'un qui s'est rendu étranger à Kadosh Baruch Hu aura le droit de manger de la terouma. Le fait de s'être rendu étranger, ça ne le rend pas inapte à la consommation de la terouma. La Gemara demande et la mate, alors maintenant ce qui est écrit dans le verset est « Umalta oto az yochalbo » et tu le circonciras, et alors à ce moment-là, il pourra manger. Alors à Hanami, allons-nous dire aussi « Debo eno ochel » Avalochel be Pessah dorot, que dans ce sacrifice-là, s'il n'est pas circoncis, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah d'Égypte, s'il n'est pas circoncis, il n'aura pas le droit d'en manger, mais il aura le droit de manger du sacrifice de Pessah des générations suivantes. Alors, Agma répond, non. Amarka, le verset a dit, ve'avadeta, et tu célébreras cette cérémonie, que le sacrifice de Pessah des générations suivantes doit ressembler au sacrifice de Pessah d'Égypte, et de même qu'en Égypte, un non-circoncis n'avait pas le droit d'en manger, il en est ainsi dans les générations suivantes. La Gemara demande, et la bo la mali. Alors c'est ainsi, pourquoi avons-nous besoin de dire bo et il en mangera? C'est-à-dire, lorsque l'on aura circoncis, il en mangera. Il est suffisant de dire, yochal, il mangera. Alors la Gemara répond, non, bo milat rav ve'avadav me'akevet, ve'en milat rav ve'avadav me'akevet bitrouma. Bo, à propos du sacrifice de Pessah, si il n'a pas fait la circoncision aux hommes et aux serviteurs de sa maison, alors à ce moment-là, même si lui est circoncis, il n'aura pas le droit de manger du sacrifice de Pessah. Mais, à propos de la terouma, si un des hommes de la maisonnée ou un de ses serviteurs n'est pas circoncis, ça ne l'empêche pas de manger la terouma. La Gemara demande maintenant, alors et la mate, alors maintenant, dirent-ils qu'il est écrit, v'etem lo ishberu bo, et un os, ils n'en casseront pas. Alors, Hanami, des bo et nos chauvers, aval chauvers, et pesar de rote, allons-nous dire aussi que bo, dans le sacrifice de pesar d'Égypte, on n'a pas le droit de casser les os, mais dans le sacrifice de pesar des générations suivantes, on aura le droit de casser les os. Alors là-dessus, la Gemara répond à Marka, le verset a dit, ve avadata, et tu célébreras cette cérémonie, c'est-à-dire de là, nous apprenons que le sacrifice de pesar des générations suivantes ressemble au sacrifice de pesar d'Égypte, et de même qu'en Égypte, il est interdit d'en casser les os, de même, le sacrifice de Pessah des générations suivantes, il sera interdit d'en casser les os. Alors, la Gemara demande, et la bol à Mali. Alors, pourquoi avons-nous besoin de dire, et vous n'en casserez pas les os? Il est suffisant de dire, v'etem loish verou, ils casseront pas les os. Pourquoi avons-nous besoin de dire, dans celui-ci, on ne cassera pas les os? Alors, la Gemara répond, bo! De là, nous apprenons que bo dans celui-ci, bekacher, lorsque le sacrifice de Pessah est valide, alors à ce moment-là, il est interdit de ne casser les os. Velo bepasoul, mais cet interdit ne s'applique pas lorsque le sacrifice de Pessah est invalide. La Gemara demande la mate, alors maintenant, dit-il qu'il est écrit, al tochlou mimenu na, et vous n'en mangerez pas à moitié cuit. Alors allons-nous dire mimenu de celui-ci, de ce sacrifice de Pessah qui était en Égypte, yatochel, tu n'as pas le droit d'en manger à moitié cuit, aval atochel na be Pessah dorod, mais tu as le droit de manger le sacrifice de Pessah des générations suivantes à moitié cuit. Magma répond à Marka, le verset a dit, Ve'avadata, et tu célébreras cette cérémonie, de là nous apprenons que le sacrifice de Pessah des générations suivantes a les mêmes lois que le sacrifice de Pessah d'Égypte, et de même qu'en Égypte il est interdit d'en manger à moitié cuit, il en est ainsi dans le sacrifice de Pessah des générations suivantes. Alors Magma demande, et la mumène ou la mali, alors pourquoi avons-nous besoin de dire, et vous n'en mangerez pas à moitié cuit? Ça vient de dire, apparemment, celui-ci et pas un autre. Alors, Gemara répond, l'echde Rabba Amar Yitzhak. Nous en avons besoin pour l'enseignement de Rabba au nom de Rabbi Yitzhak, qui apprend de ce mot par Gzera Shava, que de même que un harel, une personne non circoncis, n'a pas le droit de manger du sacrifice de Pessah, il en est ainsi, un harel, une personne non circoncis, n'a pas le droit de manger du maaser, de la dîme. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Venechal Bechipazon. Il est mangé rapidement. C'est-à-dire, le sacrifice de Pessah d'Égypte était mangé rapidement, ce qui n'est pas le cas dans le sacrifice de Pessah des générations suivantes. La Gemara demande Minalan, d'où le savons-nous? De Amarka, car le verset a dit, Vechalte moto Bechipazon, et vous le mangerez rapidement. Et de là, j'apprends, auto, celui-là, le sacrifice de Pessah qu'on a fait en Égypte, Nechal Bechipazon, est mangé rapidement. Venacher Nechal Bechipazon. Et pas un autre sacrifice n'est mangé rapidement, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah des générations, lui n'est pas mangé rapidement. Maintenant, la Gemara rapporte un autre extrait de la Mishnah. Ou Pessah dorot noé kol shiva. Et le sacrifice de Pessah, et nous avons dit dans la Mishnah en fait que ça se rapporte sur les lois de Pessah, s'applique durant 7 jours, vechoulé, etc. En maintenant, la Gemara demande à Maïkaï, sur quoi cela rapporte? Étant donné que les lois qui précèdent cette phrase dans la Mishnah nous parle des lois concernant le sacrifice de Pessah. Et nous avons dit que le sacrifice de Pessah d'Égypte était mangé rapidement une nuit. Et après nous disons que le sacrifice de Pessah, après nous disons, ou Pessah dorod noé kol shiva, que le Pessah des générations s'applique durant 7 jours. Alors apparemment nous parlons ici du sacrifice de Pessah. Alors la Gemara demande, il y m'a Pessah, si nous parlons du sacrifice de Pessah, Pessah kol shiva mika, y a-t-il un sacrifice de Pessah durant 7 jours? Il n'y a pas de sacrifice de Pessah durant 7 jours, mais seulement la veille de la fête. Donc c'est sûr que nous ne pouvons pas parler ici du sacrifice de Pessah.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Tzadik Vav Amud Bet. Et la Chametz, alors c'est sûr qu'en fait ici nous parlons aux lois de Chametz, qu'il est interdit de posséder du Chametz, et que cette loi s'applique durant 7 jours. Et donc, en fait, si c'est ainsi, alors la phrase qui précède cette phrase-là, qui nous dit que le Pessah d'Égypte ne s'applique que la nuit, alors ça concerne aussi le Chametz. Et donc, ça veut dire que, d'après la Mishnah, lors de la fête de Pessah, lorsqu'ils étaient en Égypte, il y avait un interdit de posséder du Chametz seulement la première nuit de Pessah. Et c'est ce que la Gemara nous dit. Michal de Pessah Mitzrayim, laila echad. Ça veut dire de là j'apprends que d'après la Mishnah, l'interdit de consommer du Chametz lorsque les Bnei Israël ont fait Pessah en Égypte, c'était une seule nuit, vetulo et pas plus. Vatania, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili dit, minayin le Pessah Mitzrayim shen chimutzo noeg ela yom echad. D'où je sais que l'interdit de consommer du Chametz lorsque les Bnei Israël étaient Pessah en Égypte ne s'applique que une journée. Talmud Lomar, le verset nous dit, lo yachal chametz, il ne sera pas mangé de chametz, v'samichle, et c'est juxtaposé à ce verset, hayom atem yotim, aujourd'hui vous sortiez. Et en fait, nous lisons le verset, lo yachal chametz hayom, on ne mangera pas de chametz aujourd'hui. Donc, l'interdit de consommer du chametz était qu'une seule journée. Mais de toute façon, de cette braïta, elle est prouvée que c'est toute la journée, il est interdit de consommer du chametz. Et pas seulement la nuit, comme le dit la Mishnah. Alors, on nous dit, elle a achikam, alors c'est ainsi qu'il faut dire. Laila echad, une nuit, c'est-à-dire que le sacrifice de Pessah en Égypte était mangé une seule nuit. Vuadin et Pessah dorot, il en est de même à propos du sacrifice de Pessah des générations suivantes. Vechimutso, et il interdit de manger du chametz. Kolayom, c'est toute la journée, lorsque les ministres étaient Pessah en Égypte, toute la première journée. Ou Pessah dorot, et à propos de Pessah des générations suivantes, Noël Kol Shiva, cet interdit s'applique durant 7 jours. Et avant de continuer la Mishnah suivante, il faut expliquer ce qui s'appelle la Temura. Il y a une loi qui nous dit que lorsqu'on prélève une bête pour un sacrifice, c'est-à-dire on la prélève pour un holocauste, pour un rémunératoire, pour le sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit d'échanger cette bête contre une autre bête. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une vache, j'ai dit ça, ce sera un holocauste, j'ai pas le droit de prendre une autre vache et de dire que cette seconde vache sera holocauste à la place de la première. Et si malgré tout j'ai fait cet échange, alors à ce moment-là, les deux bêtes seront saintes. Et si nous allons parler dans la Mishnah, dans le cas où quelqu'un a échangé un sacrifice de Pessah. Donc il a pris un agneau, et après il a pris un second agneau, et il a dit ce second agneau sera à la place du premier. Alors la loi est que ces deux agneaux ont la loi de sacrifice de Pessah. Alors la Mishnah nous dit, Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit, Shamati shet murat Pessah kreva, ut murat Pessah ena kreva. J'ai entendu deux cas par les sages, par mes maîtres. Dans le premier cas, l'échange, la temura du sacrifice de Pessah est offert. Dans l'autre cas, il n'est pas offert. Ve'en il est faresh, et je ne sais pas expliquer, c'est-à-dire j'ai oublié quelle est la différence, dans quel cas il est offert, dans quel cas il n'est pas offert. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a dit, Ani faresh, moi je vais expliquer. A Pessah, shenimsa kodem shrita, a Pessah, yireat sheistaev. Lorsqu'une personne avait un sacrifice de Pessah, et qu'il a perdu ce premier sacrifice, et donc il a prélevé une seconde bête en tant que sacrifice de Pessah, et que ce sacrifice de Pessah a été trouvé avant que l'on abatte le second sacrifice de Pessah. Donc en fait ici on a devant nous deux sacrifices de Pessah, et que l'on a abattu un de ces deux, étant donné que l'on a pris un et que l'on a repoussé directement le second, c'est-à-dire que lui on ne l'utilise plus en tant que de sacrifice de Pessah, irait à Tchistev, alors à ce moment-là on leur verra paître jusqu'à qu'il ait un défaut, veimacher, alors à ce moment-là on le vendra, veyavi bedamash lamim, et il offrira avec la somme qu'il a reçue de sacrifice de Pessah, un sacrifice rémunératoire, vechem tumurato. Il en est de même s'il a échangé ce sacrifice de Pessah contre une autre bête. Alors, cette bête qui sera échangée, la seconde, on l'enverra paître jusqu'à qu'elle ait un défaut, et on la vendra, et à ce moment-là, avec l'argent, on achètera un rémunératoire. Par contre, achar shritata Pessah, si on a retrouvé la première bête après avoir abattu le second sacrifice de Pessah, étant donné que lorsqu'on a abattu le sacrifice de Pessah, on n'a pas repoussé directement la première bête, car elle n'était pas là. Donc c'est pas qu'on a choisi celle-là et repoussé l'autre. Et donc puisqu'on ne l'a pas repoussé directement, karev shlamim, alors à ce moment-là, le premier sacrifice de Pessah qui a été perdu et retrouvé est offert en tant qu'holocauste lui-même, et de même, s'il a échangé ce premier sacrifice de Pessah contre une autre bête, cette seconde bête aussi sera offerte directement en tant que sacrifice rémunératoire. Et donc, dans le premier cas, l'échange du sacrifice de Pessah n'est pas offert, et dans le second cas, l'échange du sacrifice de Pessah est offert. Et c'est cela l'explication des dires des maîtres de Rabbi Yoshua. La Gemara demande maintenant, Veleima, pourquoi Rabbi Yoshua n'a-t-il pas dit Pessah karev ou Pessah eno karev, qu'il existe des cas où le sacrifice de Pessah en lui-même est offert, et il existe des cas où le sacrifice de Pessah n'est pas offert. Car étant donné que, suivant l'explication de Rabbi Akiva, alors ici nous parlons des deux cas, du cas du sacrifice de Pessah lui-même, et du cas de l'échange du sacrifice de Pessah. Alors pourquoi Rabbi Yoshua lui n'a mentionné que le cas de l'échange du sacrifice de Pessah? La Gemara nous dit à Kamashana, ça vient nous apprendre, des katmurata Pessah de l'okriva, qu'il existe des cas où l'échange du sacrifice de Pessah n'est pas offert. Itmar, il a été dit. Rabba Amar, Rabba a dit, Kodem Shrita ou Lachar Shrita Shaninu. Ce qu'il a été enseigné, c'est si on a trouvé la première bête avant que la seconde ait été abattue ou après que la seconde ait été abattue. C'est-à-dire que si on a trouvé la première bête avant que la seconde ait été abattue, alors lorsqu'on abat le sacrifice de Pessah, on a devant nous deux sacrifices de Pessah. Un, on l'utilise, et l'autre, on l'utilise pas, c'est-à-dire qu'on le repousse carrément, puisqu'on le repousse carrément et directement, alors celui-là ne pourra plus être offert. Par contre, si la première bête a été retrouvée après que la seconde ait été abattue, donc en fait, cette première n'a pas été repoussée directement, et c'est pour cela qu'on aura le droit de l'offrir. Rav Zira Amar, par contre, Rav Zira a dit, Kodem Chatzot ou Lachar Chatzot Shaninu. Ce qui était enseigné dans la Mishnah, c'est est-ce qu'on a retrouvé la première bête avant la mi-journée ou après la mi-journée? Car d'après Rabbi Zira, la mi-journée, c'est elle qui fixe quel sacrifice va être offert. Donc si on a retrouvé la première bête avant la mi-journée, donc à la mi-journée, on fixera est-ce qu'on voudra cette bête-là ou cette bête-là. Et la seconde, on la repousse directement. Par contre, si on a retrouvé la première bête après la mi-journée, donc automatiquement, celle qui a été fixée pour être offerte en tant que sacrifice de Pessah, c'est la deuxième. Car à la mi-journée, au moment où on fixe quelle bête on veut offrir pour sacrifice de Pessah, on n'avait pas encore trouvé la première. Et donc en fait, c'est pas nous qui avons repoussé directement la première bête. Donc c'est pour ça qu'elle pourrait être offerte en tant que sacrifice de Pessah. On l'agma demande, on Rav Zira, et d'après Rav Zira, Ktan, et pourtant nous avons enseigné, Kodem Shritat HaPessah, que dans la Mishnah, nous avons dit que si on l'a retrouvé avant d'avoir abattu le sacrifice de Pessah. Alors l'agma répond, non, Ima, il faut dire, Kodem Zman Shritat HaPessah. En fait, dans la Mishnah, il faut dire, avant le moment où on doit offrir le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire avant la mi-journée. L'agma nous dit, Ketanaï, cette discussion entre les Emoraïm, entre Rabba et Rav Zira, dépend d'une discussion entre Tanaïm. Comment cela? HaPessah Shenimta Kodem Shrita Yire, le sacrifice de Pessah qui a été retrouvé avant que le second n'ait été abattu, ira paître. L'Echar Shrita, s'il a été retrouvé après que le second ait été abattu, Ikarev, il pourrait être offert en tant que rémunératoire. Rabbi Lazer Omer, Rabbi Lazer dit, Kodem Chatzot Yire, s'il a été retrouvé avant la mi-journée, on l'enverra paître. L'Echar Chatzot, par contre, s'il a été retrouvé après la mi-journée, même si c'est avant que le second n'ait été abattu, il pourrait être offert en tant que rémunératoire. Donc nous voyons que cette discussion entre Rabba et Rav Zira est une discussion entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Et nous continuons le shiur de Daf Tzadik Vav. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Achar shritat haPessah yavishelamim. Si une personne avait un sacrifice de Pessah, il a perdu cette bête, et il a donc prélevé une seconde bête, et après avoir abattu la seconde bête qu'il a prélevée, il retrouve la première. Alors à ce moment-là, cette première pourra être offerte en tant que sacrifice rémunératoire. Et s'il a échangé cette première bête qu'il a retrouvée après avoir abattu la seconde contre une troisième bête, c'est-à-dire il a amené un autre agneau, et il a dit ce troisième agneau que j'amène maintenant sera à la place du premier. Donc ça s'appelle Temura. Alors nous avons vu que dans un cas pareil, les deux agneaux, le premier et le troisième, sont saints. Et donc ce troisième sera aussi offert en tant que sacrifice rémunératoire. Alors la Gemara nous dit, Amar Rabba, Rabba a dit, Lo shanu, ela shenimta achar shrita, ve'emir bo achar shrita. Cet enseignement qui nous dit que la troisième bête, la bête qui est Temura, sera offerte en tant que sacrifice rémunératoire, n'a été dite seulement dans un cas où la première bête a été trouvée après l'abattage du second, et que l'échange a été fait après l'abattage du second. Aval nimsa kodem shrita. Mais si la première bête a été trouvée avant l'abattage du second, vemir bo achar shrita, et l'échange entre la première et la troisième a été fait après l'abattage du second, tmurato mikor gdusha truya kata. L'échange, et donc la sainteté de la troisième bête, provient de la première bête, qui a donc une sainteté qui a été repoussée, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, qu'étant donné qu'il avait deux bêtes devant lui, puisque nous parlons dans un cas où il a retrouvé la première avant l'abattage de la seconde, et qu'il a décidé d'abattre la seconde, donc il repousse directement la première, il dit, celle-là, je ne la veux plus en tant que sacrifice de Pessah. Et donc, puisqu'il a repoussé directement, on n'aura pas le droit de l'offrir en tant que rémunératoire. Et donc, lorsqu'il échange cette première bête contre une troisième bête, donc la troisième bête prend la sainteté de la première. Or, la sainteté de la première, ce n'est pas une sainteté qui lui permet d'être offerte, puisqu'on l'a repoussée. Et donc, puisque la troisième a la même sainteté que la troisième bête aussi ne pourra pas être offerte. Et c'est ce que la Gemara nous dit, « Velo kareva », et donc, cette troisième bête ne pourra pas être offerte. Itive Abaye, Abaye pose une question alors, il est écrit dans un verset, Im Kesev. Et en fait, nous parlons ici, le verset nous parle ici des lois concernant le sacrifice rémunératoire. Et la Torah nous dit que si il veut amener du menu bétail en tant que sacrifice rémunératoire, alors si c'est une brebis, alors il y a des lois, etc., comme ceci et comme cela. Et après, le verset continue et nous dit, et si c'est une chèvre, alors, ainsi est la loi. Or, étant donné que dans le menu bétail, il n'existe que deux catégories, les brebis et les chèvres. Donc, puisque plus loin, nous parlons des chèvres, c'est sûr que la première loi parle des brebis. Donc, pourquoi avons-nous besoin de dire explicitement « Imkesev » si c'est une brebis ? Matalmon Lomar, pour quelle raison le verset a-t-il besoin de le dire ?« Imkesev » si c'est une brebis ? Alors, la Gemara nous dit, ça vient nous dire « Les rabot tmurat apesach, achar apesach » ça vient inclure l'échange d'un sacrifice de Pessah après la fête de Pessah chez Kereva Shlamim qui est amené en tant que rémunératoire. Donc en fait, ça vient nous inclure encore une note bête qui est amenée en tant que rémunératoire, c'est l'échange du sacrifice de Pessah. Alors la Gemara demande, Echidame, de quel cas parlons-nous ici? Nous parlons ici de l'échange du sacrifice de Pessah. Alors maintenant, comment s'est passé cet échange? Ilima shenimsa achar shchita ve'emir bo achar shchita. Si nous parlons d'un cas où une personne avait un sacrifice de Pessah, et qu'il a perdu, et qu'il a retrouvé ce sacrifice après l'abattage de la seconde bête qu'il a prélevée, et qu'il a échangé son sacrifice, sa première bête, contre la troisième, après l'abattage de la seconde. Alors, pshita, c'est évident que dans un cas pareil, même la bête qui est échangée est offerte en tant que sacrifice rémunératoire, la malikra, et donc pourquoi avons-nous besoin d'un verset? Et là, alors, et donc n'est-ce pas Shenimsa kodem shritan, que nous parlons d'un cas où le sacrifice de Pessah, le premier, a été trouvé avant l'abattage du second, et il a battu le second, ve'emir bo achar shrita, et après il a échangé le premier contre une troisième, après l'abattage rituel. Et dans un cas pareil, le verset vient nous dire que la bête qui est échangée pourra être offerte en tant que sacrifice rémunératoire. Et donc ça va à l'encontre de l'enseignement de Rabba, qui a dit que dans un cas pareil, la bête échangée ne pourra pas être offerte en tant que sacrifice rémunératoire. Alors la Gemara répond, non. Le'olam shenimsa achar shrita ve'emir bo achar shrita. Nous devons toujours expliquer que le cas de la Braïta, nous parlons d'un cas où la bête a été trouvée, la première bête a été trouvée après l'abattage de la seconde, et que l'échange a été fait après l'abattage de la seconde. Et alors à ce moment-là, pourquoi avons-nous besoin d'un verset? Vekras marta be'alma. Le verset n'est qu'un support, mais ce n'est pas la source de cette loi. Alors la Gemara demande, alors si c'est ainsi, et la kra le mayata. Alors si on n'apprend pas cette chose-là de ce verset, alors qu'est-ce que le verset est venu nous apprendre? La Gemara répond, l'air d'Etania, ça vient nous apprendre pour ce qui a été enseigné dans une braïta. Kesev, nous avons donc déjà dit que les mots, si c'est une brebis, sont en trop. Alors le fait du mot de la brebis, nous apprenons que les rabot est à Pessah, la alia. Ça vient nous apprendre que même la queue du sacrifice de Pessah est offerte sur l'autel, comme les sacrifices rémunératoires. Chez Omer Imkesev, lorsqu'il est dit Si c'est une brebis, les rabots Pesach Shavrash Nato, Ushlamim Abaim Mechamat Pesach, ça vient inclure que les sacrifices dont, de Pesach, dont l'année est passée, par exemple, quelqu'un avait un sacrifice de Pesach et ne l'a pas offert et l'année est passée, ou alors les sacrifices rémunératoires qui viennent et qui accompagnent le sacrifice de Pesach, ça vient nous dire que ces deux sacrifices-là, les kol mitzvot shlamim, on devra, lorsqu'on les offre, appliquer tous les commandements concernant les sacrifices rémunératoires. Comment cela? Chez Taon Smicha, on devra s'appuyer sur la bête avant de l'offrir, un sachim, et on aura besoin de faire des libations lorsqu'on les offre, ou de nous fat chazev et choc, et le balancement de la poitrine et de la cuisse de la bête, ce sont des lois qui concernent les sacrifices rémunératoires, et ces lois s'appliquent aussi dans les deux cas, c'est-à-dire un sacrifice de Pessah qui a passé l'année, ou les sacrifices rémunératoires qui accompagnent le sacrifice de Pessah. Ukshe Omer, et lorsqu'il est dit, après dans la suite du verset, Veim Ez, et si c'est une chèvre, Ifsik Ainyan, on a changé de sujet, et donc l'imed à la Ez, She'en Teuna Alia. Ça vient, étant donné qu'on a changé de sujet, et qu'on parle maintenant d'un autre sujet, ça vient nous apprendre que la queue de la chèvre n'a pas besoin d'être offerte sur l'autel. Ika de Madne la Arecha. Il y en a qui enseignent cet enseignement de Rabba que nous avons vu plus haut, pas sur la fin de la Mishnah, comme nous venons de l'apprendre, mais sur le début de la Mishnah. Comment cela? La Mishnah nous dit, à Pesach, shenimtsa kodem shritata Pesach, irea chistaev. Si une personne avait un sacrifice de Pesach, et qu'il a perdu, et que ce sacrifice de Pesach a été retrouvé avant que l'on abatte le second sacrifice de Pesach, et que l'on a abattu un des deux, alors le second ira paître jusqu'à avoir un défaut. Car lorsqu'on a abattu le premier, on a dit en fait qu'on voulait le premier et on repoussait directement le second, et donc le second ne pourra plus être offert en tant que sacrifice. Et donc, Veimacher, il ira paître jusqu'à avoir un défaut, à ce moment-là il sera vendu, Veyami, Veyavi, Bedamav, Shlamim. Et on amènera avec la valeur de cette bête un sacrifice rémunératoire. Vechen Temurato, il en est de même si cette bête qui a été envoyée paître, on l'a échangée contre une autre bête. Alors même cette troisième bête, on devra l'envoyer paître jusqu'à qu'elle ait un défaut. Et à ce moment-là, on la vendra et avec l'argent, on achètera un sacrifice rémunératoire. Ça, c'est le début de la Mishnah. Et là-dessus, à Marava, lo shanu ela shenimta kodem shchita, ve'emir bo kodem shchita, que cette loi n'a été enseignée seulement si la bête a été trouvée avant l'abattage rituel, la première a été trouvée avant l'abattage rituel, et que l'échange a été fait avant l'abattage rituel. Aval nimtsa kodem shchita ve'emir bo achar shchita, mais si la bête a été trouvée avant l'abattage rituel, le premier sacrifice, et que l'échange a été fait après l'abattage rituel de le second sacrifice, temurato kreva shlamim. Alors la bête qui a été changée, elle pourrait être offerte sacrifice en tant que rémunératoire. C'est-à-dire que c'est vrai que la première bête qui a été retrouvée ne pourra pas être offerte en tant que sacrifice rémunératoire, car lorsqu'on a abattu la seconde, alors on l'a repoussée directement. Mais la troisième, celle qui a été échangée, étant donné que elle, au moment de l'abattage de la seconde, n'était pas encore sainte, donc elle n'a pas été repoussée. Donc c'est pour cela qu'on a le droit de l'offrir en tant que rémunérateur. C'est ce que l'Agma nous dit, Maïtama, pour quelle raison? Kikava Shrita, lorsque l'abattage rituel a décidé que cette bête allait être offerte et pas celle-là, alors Midede Chazele, Midede Lo Chazele, Lo Kava, c'est quelque chose qui est apte à être offert. L'abattage peut fixer pour quelque chose qui est apte à être offert. Donc les deux sacrifices de Pessah que nous avons devant nous, et nous disons celui-ci et pas celui-là. Midede Lo Chazele, Lo Kava. Par contre, quelque chose qui n'est pas apte à être offert, on ne peut pas le fixer. Et donc, puisque c'est ainsi, cette troisième bête, au moment de l'abattage rituel, n'était pas sainte. Donc, on ne pouvait pas fixer que c'est la seconde et pas la troisième, puisque la troisième n'était pas encore sainte. Et donc, en fait, nous ne l'avons pas repoussée. Et lorsque, après l'abattage rituel, nous faisons un échange, et donc nous la sanctifions, à ce moment-là, elle pourrait être offerte en tant que sacrifice rémunératoire. Et nous avons fini ici, le shiur de Daf, Tzadik Vav. Et nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf, Tzadik Zayin. Nous avons vu dans le shiur précédent un enseignement de Rabba qui nous dit que lorsqu'une personne a prélevé un sacrifice de Pessah et que cette bête a été perdue et qu'il a prélevé un second sacrifice de Pessah pour offrir son Pessah et que l'on a retrouvé la première bête avant d'abattre la seconde, alors la Mishnah nous a dit que lorsqu'on abat une des deux, La seconde automatiquement a été repoussée et ne pourra pas être offerte en tant que rémunératoire, mais on l'enverra paître jusqu'à qu'elle ait un défaut, et avec l'argent on la vendra et avec l'argent on achètera un rémunératoire. Et de même, si on a échangé cette bête contre une autre bête, alors cette troisième bête aussi on l'enverra paître jusqu'à qu'elle ait un défaut, on la vendra et avec l'argent on achètera un rémunératoire. Et là-dessus, Rava a dit que lorsque l'on a fait un échange et que la troisième bête aussi n'a pas le droit d'être offert en tant que rémunératoire directement, seulement on l'enverra paître, alors cette loi c'est seulement si la première bête a été retrouvée avant l'abattage de la seconde et que l'échange entre la première et la troisième s'est effectué avant l'abattage de la seconde. Mais si la première a été retrouvée avant l'abattage de la seconde et que l'échange s'est effectué entre la première et la troisième s'est effectué après l'abattage de la seconde, alors dans un cas pareil, la troisième bête aura le droit d'être offerte directement en rémunératoire, on n'aura pas besoin de l'envoyer paître jusqu'à qu'elle ait un défaut, etc. Auras-tu, la Gemara demande, et nous sommes d'Artsadik Vav Amoud Bet, deux lignes avant la fin. Itibé Abaye. Abaye a posé une question sur cette explication de Rabba. Il est dit dans le verset, Im Kesev, si c'est une brebis. Et donc, comme nous l'avons vu dans le chiot précédent, nous parlons ici des lois concernant les sacrifices rémunératoires, et le verset nous dit, si c'est une bête du menu bétail, alors si c'est une brebis, les lois seront, etc. Or, si c'est une brebis, c'est en trop, car dans le menu bétail, il y existe deux catégories, les brebis et les chèvres. Or, puisque le passage d'après nous parle des chèvres, c'est sûr que ce passage nous parle des brebis. Donc pourquoi avons-nous besoin de dire que nous parlons des brebis? Matamud Lomar, pourquoi le verset le dit? Ça vient nous dire, les rabot tmurat a pesach, achar a pesach, shekreva shlamim. Ça vient nous apprendre que même l'échange d'un sacrifice de pesach, après la fête de pesach, est offert en tant que rémunératoire. C'est ce que nous apprenons de ce verset, des mots en trop.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.